Vous écoutez France Musique.
Diable Beauvert, à notre table ce dimanche, la plus vénitienne des natifs d'Alaska, c'est d'ailleurs sur les rives de la Sérénissime qu'elle a trouvé l'amour, c'est aussi la plus épanouie des mezzos, même si elle a cru longtemps à regret de voir être soprano. Bref, l'une des plus belles voix d'aujourd'hui, et si qui ne gâte rien, c'est elle qui a préparé notre menu, steak à la vivica, polenta au lait et orange à la massimo. Alors dépliez vite votre serviette et montez le son.
Il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose.
Benjamin, d'une famille de trois sœurs, sa mère d'origine suisse-allemande, bien connue au Mexique, professeur de langue, lui donna le goût de les mettre en pratique quand son père, biochimiste, la poussera à étudier la génétique à l'université, ce dont elle se détournera bien vite. Heureusement si j'ose dire, à Fairbanks, l'hiver dure 9 longs mois, incitant les enfants à se frotter à toutes sortes de disciplines, ce qu'elle fera en étudiant la danse, le violon, le piano et bien sûr le chant. Mais à 13 ans, elle déteste toujours l'opéra, au point de s'acharner à passer l'aspirateur le dimanche quand ses parents écoutent religieusement les retransmissions du Met. Ce qui ne l'empêche pas toutefois, lorsqu'elle découvre qu'une nouvelle production de My Fair Lady doit être montée, d'apprendre tout l'ouvrage en quelques jours pour décrocher le rôle-titre. À Bloomington, on l'arrange parmi les sopranos, mais elle ne se sent pas dans la peau d'une victime comme Mimi. Et il lui faudra la rencontre avec Claudia Pinza, la fille du légendaire Ezio, qui deviendra comme sa seconde mère, pour trouver enfin sa vraie voix, celle de mezzo. Ce sont ensuite des cascades de vocalises pyrotechniques, celle de son cher Rossini, de l'italienne Angèle jusqu'à la Cenerentola, en passant par ses Rosines, qu'elle croise tous les jours dans les rues de Venise, Handel bien sûr, ou ce plus rare à ceux qu'elle découvre auprès de René Jacobs, non sans rêver peut-être de se frotter un jour à la vénéneuse Carmen, même si elle a désormais plus d'une vingtaine de rôles d'hommes à son actif, moins que de femmes fatales. Le reste, vous le découvrirez au fil de notre déjeuner musical, auquel nous avons le plaisir de convier aujourd'hui Vivica Geno.
Mi sento gelare, mi sento gelare.
Cageno.
Bonjour Thierry.
Alors nous vous écoutions là bien sûr un extrait d'Il Cira e Continuo autour de Johann Adolphas, pardon. Qual nome se ascolto de un extrait d'un dernier disque qui vient de paraître chez Deutsche Harmonia Mundi avec la Capella Gambetta sous la direction d'Andrés Gambetta. Et on vous retrouvera d'ailleurs le 1er février à Paris, Salle Gaveau, pour un programme partagé entre Handel, Asse, puis quelques pyrotechnies dont vous avez le secret aussi.
Hein. Oui.
Et donc ce disque, c'est un hommage à Faustina Bordoni. Alors c'est bien parce que vous avez tellement chanté de rôle d'homme qu'enfin voilà une femme très belle.
Oui, c'est vrai.
Dont Handel était éperdument amoureux.
Oui.
Grande cantatrice à son époque.
Une
star. Hein.
Oui, elle était fantastique. Et puis c'était la première fois que j'ai eu la possibilité de faire un peu de recherche sur la vie d'une chanteuse après le disque que j'ai fait avec René Jacobs de Farinelli. Parce que quand on a choisi les airs pour Farinelli, René m'a donné plein des airs. Il m'a dit, choisis-toi celles-ci qui vont mieux pour ta voix. Et alors, c'est là que j'ai commencé à comprendre que les voix des chanteuses et des chanteurs même commencent très aiguës et puis ils finissent très bas. Alors, l'extrait qu'on a entendu maintenant, c'était de la dernière opéra que Faustina a chanté. Et on entend que c'est la voix, c'est assez grave. Et c'est comme entendre les enregistrements de Josephine Baker, par exemple. Quand elle commence, elle est très aiguë. « J'ai deux amours de... !» Et puis « J'ai deux amours !» Et comme... Alors, c'est la même chose avec Farinelli, avec Faustina. C'est très intéressant, ce disque-là, parce que on n'a pas mis des autres compositeurs comme Leo Vinci, Orlandini, qu'elle a chanté beaucoup quand elle était jeune. Mais en même temps, les opéras de Handel qu'elle a chanté, c'était dans sa jeunesse. Et alors, les airs de Tolomeo, de Alessandro aussi, sont plus aigus. Et on entend, avec le passage du temps, que la voix descend peu à peu. Et comme chanteuse, c'est incroyable, c'est très intéressant comme recherche.
Heureusement, vous, Vivica Geno, vous avez la voix des deux Faustina, la jeune et la plus âgée.
Mais j'ai commencé déjà bas.
Je le disais dans mon papier introductif, on vous a classé comme soprano au départ pendant vos études, alors que vous n'aviez pas du tout envie finalement. Hein.
Oui, mais j'ai jamais travaillé comme soprano, mais pour plusieurs raisons.
Alors je le disais dans mon petit papier, enfant évidemment vous faites beaucoup de musique parce qu'il faut bien s'occuper à faire Banks l'hiver, mais vous n'aimiez pas l'opéra, vous détestiez ça?
Non, absolument. Non. Ouais, c'était ma mère qui était passionnée de l'opéra. Mon père écoutait toujours les disques de l'orchestre, Mahler, Brahms, Bruckner, tous les gros... des grosses œuvres pour orchestre.
Ça, vous aimiez les symphonies, en revanche?
Oh, j'adorerais.
Les concertos pour violon aussi, je crois.
Oui, j'ai étudié violon, mais au violon, j'ai toujours étudié Vivaldi, qui autant, c'était pas mon truc. J'aurais adoré. Quand j'ai commencé à chanter comme mezzo-soprano, je connaissais pas du tout le répertoire de mezzo. J'ai commencé avec Samson et Dalila. Pour bien. Vous donner l'exemple. J'ai toujours eu l'envie d'avoir la voix grande, énorme, qui pouvait chanter les grandes œuvres. Mais bon, ça sera dans la prochaine vie.
On verra alors. En tout cas, dans la présente vie. Donc, à 13 ans, vous passez l'aspirateur pour embêter votre maman. Mais quand même, il y a un jour ce déclic avec My Fair Lady.
Just you wait in me, Higgins, just you wait. You'll be sorry, but your tears will be too late. You'll be broke and all have money. Will I help you, damn be funny? Just you wait in me, Higgins, just you wait. Just you wait in me, Higgins, till you're sick. And you screams to fetch a doctor double quick. I'll be off a second lighter and go straight to the theater. Ha ha, Henry Higgins, just you wait. Ooh, Henry Higgins, just you wait until we're swimming in the sea. Ooh, Henry Higgins, and you get a cramp a little ways from me. When you yell you're gonna drown, or get dressed and go to town. Ho ho ho, Henry Higgins. Ho ho ho, Henry Higgins. Just you wait.
all be proper and prim. Go to St. James, so often I will call it St. Jim. One evening the king will say, "Oh, Liza, old thing, I want all of England your praises to sing next week on the 20th of May. I proclaim Liza Doolittle Day. All the people will celebrate the glory of you, and whatever you wish and want, I gladly will do. Thanks a lot, King," says I, "in a manner well bred, but all I want is Henry Higgins Ed." "Done," says the king with a stroke. "Good, run and bring in the bloke.
Then they'll march Henry Higgins to the wall, and the king will tell me Liza stand the call. As they raise their rifles, I'll shut, ready, aim, fire.
Un extrait de la bande originale de My Fair Lady, je peux en témoigner à nos auditeurs, vous le savez toujours par cœur, hein, Vivi,
chez nous,
ce rôle d'Elisa. Alors c'était Audrey Hepburn à l'écran, mais bien sûr, la bande-son c'était Marnie Nixon. À 13 ans, vous pensiez vraiment pouvoir décrocher le rôle d'Elisa ?
Oh oui, j'avais aucun doute.
Mais vous l'avez eu ou pas ?
Comment ?
Vous l'avez eu ou pas, du coup ?
Oui,
vous l'avez eu, réellement ?
Oui. Et c'est étrange parce que je dis toujours que le genre, le juste personne, on se trouve dans le sentier de la vie, toujours au moment juste. Et on était au Japon, parce que mon père, qui était professeur de biochimie, avait pris sabbatical. Alors, on était 5 mois à Osaka. Et quand j'ai su qu'en Alaska, on aurait fait My Fair Lady, j'ai dit, mais moi, je dois me préparer. Et on a trouvé le livret, c'est-à-dire pour le texte pour l'œuvre théâtrale, dans quelques bibliothèques au Japon, en anglais. Et c'était... C'est impossible, ça. Et alors, j'ai appris le premier acte en train, en ayant... on était, je ne sais pas, à Okinawa, je pense, on était allé pour le fin de semaine. Et dans le train vers Okinawa, j'ai appris le premier acte. Et retournons le deuxième acte, à mémoire. J'ai appris tout. Et ça, c'était... au novembre. Et j'ai fait l'audition au juillet de l'année prochaine. Et je savais tout. Je connaissais tout leur rôle par cœur.
Y compris c'était les autres, du coup. Oui, ils connaissaient tous les rôles, y compris celui d'Higgins.
Ouais. Mais c'était là que j'ai découvert le théâtre. C'était un coup de foudre parce que j'étais tombée amoureuse du théâtre. J'ai aidé à construire les scènes aussi, à peindre. Et, oh, pas faire les costumes parce que je ne sais pas coudre. Mais
alors pourquoi aller faire de la génétique avant vos véritables débuts ensuite ?
Mais parce que c'était toujours un hobby pour moi, la musique. C'était toujours un passe-temps et je connaissais que la science dans ma vie comme profession parce que j'habitais dans un endroit de Fairbanks en Alaska où ils habitaient tous les professeurs de l'université. Alors je fréquentais toujours ces enfants et alors ma meilleure amie Keiko, son père était le directeur de l'institut de géophysique,
oui.
Il était l'expert maximum de l'aurora borealis.
Oui, là-bas en plus on peut les voir.
Ouais. Et puis des autres avaient des parents biologues. Et c'était la seule chose que je connaissais dans la vie. Alors pour moi, génétique, c'était la chose plus évidente qu'on pouvait faire.
Ah, Vivica, on va parler après, évidemment, de la suite de votre carrière. Mais finalement, vous réunissez vos deux passions parce que vous avez quand même un diplôme de sciences, mais qui porte sur la voix.
Oui, c'est ça.
C'est mignon,
un Bachelor of Science dans la voix. C'était incroyable. Oui, c'était seulement...
Après, ça sert à quoi? Ça donne quoi comme métier? Ça pourrait être phoniatre ou non?
Je ne pense pas, non. C'est un mélange pour qui n'était pas contente d'étudier que la musique, mais qui voulait avoir... C'est parce que j'étais allée avant pour la génétique, et puis je n'étais pas contente, alors je suis transférée. Et pour ne pas perdre tout le temps que j'avais déjà donné, ils m'ont dit, conseillé de faire le Bachelor of Science, là, on voit. Mais bon...
Et puis après, heureusement, les choses seront mises en ordre. Vous découvrez réellement Mezzo. Et tout commence avec ce bon Rossini. C'est l'italienne Alger de Rossini. Vous étiez Isabella, Vivi Cageno, ici avec l'ensemble orchestral de Paris, s'appelait comme ça à l'époque, sous la direction de John Nelson. Alors, c'est votre premier grand rôle, cette Isabella.
Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai débuté avec ça. Ouais.
Il y a encore une audition ?
C'était la première fois dans ma vie que j'ai eu le contrat par une audition, parce que j'ai fait plusieurs auditions. J'ai entendu dire aussi que Jennifer Larmour était comme ça. Elle avait fait plusieurs auditions, 50 auditions, sans rien avoir. Et pour moi, c'était la même chose. J'étais très bien à faire les concours de voix. J'ai vaincu, j'ai gagné plusieurs prix. Mais quand j'étais à faire les auditions pour le travail, les gens ne savaient pas quoi me faire de moi. Et alors, c'était la première fois, j'ai fait l'audition pour Joseph Rossigno. Et il m'a dit, non, tu dois venir chanter ça. C'était aux États-Unis, dans un vieux théâtre de vaudeville, le Pabst Theater en Milwaukee. Chouette, tellement beau. Et c'est rare aux États-Unis de trouver ce théâtre-là.
Un vieux théâtre, oui.
Et alors, ma première, j'ai entendu battre à la porte de ma loge. Et j'étais préparée, il manquait que 5 minutes au début de l'opéra. Alors j'ai ouvert la porte et j'ai vu Rossigno là avec le directeur général de l'opéra. Ils étaient blancs de visage.
Ils venaient de découvrir que vous n'aviez jamais chanté.
Oui, parce qu'ils avaient lu dans le programme que c'était mon début. Et ils m'ont demandé, mais c'est vrai, c'est ton début, ça? Et j'avais peur, j'ai dit, mais peut-être ils vont me demander de partir, de ne pas chanter ce soir. Mais moi, je suis la seule Isabelle dans le théâtre ce soir, alors je dois chanter, j'ai déjà le perruque sur la tête. Alors j'ai dit, oui, c'est la première fois que je chante. Et dans la salle ce soir-là, il y avait aussi Ian Campbell, qui est le directeur général de San Diego Opera, qui était toujours en compagnie très importante chez nous aux États-Unis. Et il était assis près de ma mère. Je ne sais pas si c'était
le
fait
hasard.
Exprès, mais bon. Et alors, ma mère a su qu'il voulait aussi faire Italian in Algérie. Elle lui a demandé, est-ce que vous allez prendre ma fille pour chanter Isabelle? Il a dit, oh, je ne sais pas. Et à l'entracte, il a dit, madame, je vais donner un contract à votre fille. Alors...
Et alors évidemment, après, il y en aura beaucoup des Italiennes à Alger dans votre carrière et
oui.
Votre répertoire, un rôle qui évolue d'ailleurs toujours. Et puis, toujours chez Rossini, ben voici un autre de vos grands rôles.
Una voce poco fa, qui nel cuor mi suona. Il mio cuor ferito è già. Rispettosa, sono obbediente. faut guidar, il faut guidar. Ma se mi tocca, dove mio demone, sarò una vipera, sarò. E cento drappoli prima di cedere, farò giocare, farò giocare. E cento trappole prima di cedere, farò giocare, e cento trappole prima di cedere, e cento trappole farò, farò giocare. Sono docile, sono obbediente, mi lascio reggere, mi voglio
toujours Rossini, un extrait du Barbier de Séville, votre Rosine Vivi Cageno. Toujours un extrait de cet album consacré aux arias du bel canto avec l'ensemble orchestral de Paris sous la direction de John Nelson. Pourquoi vous avez dit dans une interview que des Rosines vous en croisiez tout le temps dans les rues de Venise ?
Oui, c'est vrai. Plus que Venise, à Oderzo, dans une petite ville près de où j'habite en Italie. Non, c'est vrai parce que j'ai fréquenté l'Italie maintenant depuis 20 ans. J'ai commencé dans 92. À étudier en Italie. Et pour moi, je suis née et vécue en Alaska, alors c'est un pays très nord et les femmes ne sont pas tellement féminines comme en Italie, c'est sûr, et en Espagne.
On s'habille un peu plus chaud en Alaska.
Oui, bon, il faut être très fort pour survivre là-bas en Alaska, c'est ça. Et alors, pour commencer à chanter les femmes, j'ai dû apprendre... qu'est-ce que ça voulait dire, être féminin ? Et en Italie, je trouvais ça, oui, sur les roues. Il y a un mode différent de rapport entre les hommes et les femmes en Italie qu'aux États-Unis, c'est sûr. Ici en France, peut-être c'est plus pareil que l'Italie.
Entre les deux.
Mais non, je ne sais pas. Oui,
la galanterie française, quand même.
Ouais, bon. Mais c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on était dans les années 80, les femmes, pour avoir succès dans le travail, elles devaient apprendre à être plus masculines. Et moi, en Italie, j'ai appris que c'était possible d'être féminin, mais avoir succès
Mais de pouvoir aussi faire les rôles travestis d'hommes.
Oui, mais ça, c'était autre chose. Ça, j'ai appris en Espagne. Non, mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup en Italie de cette façon féminin. Et il y a des Don Bartolo aujourd'hui aussi, quand on voit les médecins, les hommes très protectifs vers la famille, que je ne connaissais pas de ma vie.
Alors, après tous ces Rossini, il faut bien que le répertoire évolue. Une des grandes rencontres dans votre carrière et dans votre vie, ce sera celle de René Jacobs.
Per questo,
Un extrait d'Artaxerxès de Johann Adolf Haas. Vous étiez ici, Vivi Cageno, en compagnie de l'Académie Führerhalte Musik de Berlin, sous la direction de René Jacobs. Et c'est un extrait de cet album consacré aux airs de Farinelli. Alors justement, René Jacobs sera le premier coup de fil de notre déjeuner, puisqu'il y a une douzaine d'années, vous allez auditionner pour lui. C'était à Berlin déjà. Ouais. C'était pour un opéra de Haas, si je crois bien, Moribund Sulimano.
Oui, alors c'était pour Sulimano. Et dans l'audition, j'ai été déjà étonné de sa technique, parce que le rôle qu'elle chantait dans Sulimano, c'est un rôle pour castrat, pour castrat soprano, et l'air le plus difficile à des coloratures, des triolets ultra rapides. Et là, elle m'a étonné qu'elle pouvait faire ça sans aucun problème. Et donc, en travaillant avec elle, j'ai vraiment découvert bien d'autres qualités encore. D'abord, une des qualités humaines, c'est quelqu'un de très cordial et de très, très bien dans un ensemble. Elle a toujours de l'humour parce qu'elle ne se prend pas trop au sérieux. Et vocalement, donc, tout chez elle est basé sur une vraie technique bel canto. Donc, la voix est construite. On parle en anglais de voice building, construite comme une maison. Et donc elle a uni les deux registres graves et aigus d'une façon admirable. Et elle en tire des effets, parce que les deux registres chez elle ont des couleurs bien contrastantes, et elle sait utiliser ça dans l'interprétation de l'air.
Et alors, elle a dit deux choses très belles sur vous, Ilona Kops, à l'époque, oui. avec ce travail sur Asse. C'est la première chose, c'est de travailler avec vous et le concerto Köln, c'est de passer de la télévision en noir et blanc à la télévision en couleur. Et ensuite, que c'était comme travailler avec un grand couturier, parce que les ornements, les choses comme ça, vous lui écrivez sur mesure pour elle.
Oui, ça c'est comme on faisait à l'époque, évidemment. J'ai tout de suite compris qu'elle avait une voix idéale pour ce rôle de castrat, justement. Et donc, comme ça, l'idée est venue aussi de faire cet enregistrement, ce disque avec des airs de Farinelli, où j'ai en effet écrit des ornements pour sa voix, dont je savais qu'elle savait vraiment les faire. Et dans ma connaissance, c'est encore le meilleur enregistrement d'air de Farinelli, parce que les sopranistes qu'il y a maintenant ont beaucoup moins de couleurs qu'une Vivi Cagené, et ça faisait quand même partie de l'art des castrats aussi. Et oui, moi aussi, j'aime beaucoup le fait qu'elle a un don pour les langues. Donc elle parle parfaitement anglais, bien sûr, français et italien. Et ça, on entend dans les récitatifs, par exemple. Quand je fais un opéra comme Solimano et autres, je travaille beaucoup sur les récitatifs, et avec bien de chanteurs, j'ai beaucoup de travail à faire, mais avec elle, ça va très facilement, parce que cette déclamation de du législatif est là par nature. C'est très beau.
I'm sorry.
Un extrait du Rinaldo de Handel, vous en étiez le rôle-titre, Vivica Génon, le Freiburger Baroque Orchestra sous la direction de René Jacobs. C'est une production d'ailleurs qu'on avait pu applaudir à l'Opéra de Montpellier, qu'il faudrait reprendre d'ailleurs, ou peut-être une autre production, mais en tout cas l'ouvrage. Alors quand René Jacobs faisait l'éloge de votre talent, aussi bien dans les vocalises que dans les récitatifs, bah, c'est le fruit aussi du travail avec Claudia Pinsard.
Ouais, c'était incroyable de travailler avec lui, et j'ai tellement des souvenirs. Alors... C'est-à-dire, l'audition que j'ai fait pour lui, c'était la deuxième fois que j'étais prêt. Ils m'ont donné le contrat directement. C'est la deuxième et la dernière fois, je pense.
Ah non, bon.
Non, c'était fantastique. Mais j'avais peur parce que je ne connaissais pas du tout la musique baroque. Alors, j'avais préparé mes airs de Rossini. Et puis, en travaillant avec lui, il m'a toujours poussé de faire plus de couleurs, plus de... Et d'apprendre de faire un vrai trill, trémulo. Hein. Et alors, quand j'ai fait l'enregistrement de Farinelli, j'avais travaillé pendant un mois avec ma prof du chant pour apprendre à faire le real trill, le vrai trill. Et alors, c'était drôle parce qu'on a travaillé tellement. Et puis, quand on était à l'enregistrement, il y avait le premier violon qui m'a demandé « Est-ce que vous ferez encore un trill ?» Là. Non, il m'a fait apprendre tellement des choses. Et puis avec Solimano, la première opéra de Hasse qu'on a fait ensemble, c'est vrai qu'il a dit que l'air avait des choses extrêmement rapides, mais c'est-à-dire extrêmement rapides parce qu'il a pris des tempos incroyables. Et un jour, il est venu me voir dans ma loge, il m'a dit « Mais écoute, ta dernière air du premier acte, j'étais en train de penser, je pense que c'est trop rapide qu'on fait maintenant. Et ça devrait être plus martial et plus... » Alors j'ai dit, OK, on essaye cette fois. Alors je suis sortie sur scène pour faire l'air. Il est parti avec l'orchestre encore plus rapide que jamais. Et alors, je pense que l'air, normalement, ça durait 5 minutes. C'était 3 minutes 24, quelque chose comme ça, ce jour-là. Mais c'était toujours amusant de travailler avec lui parce que j'adore la défi, hein, comme ça. Et je me souviendrai pour toujours, le premier jour qu'on a travaillé ensemble, on a fait 3 heures de coaching ensemble à l'Opéra de Berlin. Et on a fait tous les 8 airs de Selim, de Solimano. Et j'avais l'impression qu'on avait l'énergie qui était partie ensemble. C'était incroyable. C'était une expérience
Oui, car
unique.
Il est lui aussi infatigable, René Jacobs.
Oui, il est incroyable. Mais bon, moi, mon mari me dit toujours que je suis diesel. Oh. J'ai besoin d'un peu de temps pour me réchauffer et puis je pars et j'arrête jamais.
Pas très élégant, ça, Mazie. Alors justement, on écoutait Solimano, ces airs de Farinelli, donc tous ces rôles travestis qui sont une grande partie de votre carrière. Et c'est justement l'objet de la chronique de l'ami Nicolas Lafitte, surtout dans un moment où en France, on parle du mariage pour tous.
Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite.
Chère Vivica, belle et sensuelle Vivica, devrais-je dire, lorsque l'on regarde les rôles que vous avez chantés et que vous chantez encore, finalement, on constate que sur scène, vous êtes plus souvent un homme qu'une femme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela signifie, alors qu'en France, nous sommes en plein débat à propos du mariage pour tous, que des barjots, sans doute un peu frigides, manifestent violemment à l'encontre de ce droit à l'égalité. Eh bien, dans l'univers des bisounours opératiques, là, en revanche, on peut se travestir et se marier sans problème. Et c'est ainsi qu'on retrouve sur Internet, dans une vidéo datant de 1980 au Festival d'Aix-en-Provence, la trace d'une Montserrat Caballé parée d'une grande robe toute blanche, genre princesse de Walt Disney, prête à se marier avec une Marilyn Horne en tenue de chevalier, bouclier en main et casque bien vissé sur la tête. Eh bien oui, l'opéra est bien plus en avance que notre société surtout quand on sait qu'elle chante une œuvre de Rossini, Sémiramis, donnée la première fois en 1823. À propos du travestissement, à la lecture de plusieurs de vos interviews et de celles de vos concerts mezzo ou contralto, on se rend compte que ça doit être une sacrée satisfaction que de pouvoir pendant quelques heures jouer un jeune premier romantique ou un chevalier couillu.
Moi si j'étais un homme, je serais capitaine.
Eh oui, Diane Tell se voit bien capitaine, mais il faut être Vivica Geno pour avoir un peu plus d'une vingtaine de rôles d'hommes à son actif. Et il faut dire que le répertoire est large. Aujourd'hui, les mezzo-soprano reprennent les partitions des castrats, pour qui les compositeurs baroques ont abondamment composé. Mais même après la disparition de ces derniers, la tradition des rôles travestis s'est perpétuée. Par exemple, le Roméo de Bellini, dans les Capulet et les Montaigu, est écrit pour une mezzo-soprano.
Roméo, même s'il ne s'appelait pas Roméo, garderait cette perfection qui m'est chère, quel que soit son titre. Ah, Roméo, ah, Roméo, ah, Roméo.
Vous voyez un peu le rêve pour une femme que d'incarner le rôle du beau Roméo. Si on vous en croit, Vivica, il serait pas mal d'ailleurs que les hommes expérimentent eux aussi les personnages féminins. Remarquez, peu l'avoueront, mais il y en a bien qui ne seraient pas contre se transformer en Juliette pour un temps.
Si au lieu d'un garçon, j'étais une jolie fille, comme je serais gentille, comme j'aurais l'air fripon. Au lieu de montrer les cheveux de ma noble poitrine, je mettrais de la soie très fine sur mes gros seins frileux.
Quand un vieux. Plus sérieusement. À vous lire et à vous entendre, se travestir demande un travail d'observation considérable. Une démarche plus raide, les hanches ne doivent pas bouger, les épaules restent basses. Mais il est aussi intéressant de voir que ce genre de rôle, quand on ne connaît que très peu l'opéra, déstabilise, interroge nos certitudes. Serait-il pour certains choquant de voir deux femmes, même si l'une est travestie sous les traits d'un homme, s'aimer ou s'embrasser? Tout comme d'autres sont mal à l'aise face à la voix d'un contre-ténor. Mais l'opéra se fiche bien des camps, dira-t-on. Alors allons tous à l'opéra, dans un monde où tout est possible, où tout le monde peut s'aimer librement sans se poser la moindre question. Enfin, ça dépend des librettistes. Où une femme peut interpréter un homme et réciproquement, c'est ce que l'on appelle une convention, un pacte conclu entre le public et la scène. Eh ben, vivement que ça arrive à la ville.
Tiens, un air lent pour une fois, Vivica Zeno, dans notre programmation musicale. Ombra fedel, anch'io, un extrait d'Idaspe de Riccardo Broschi. Toujours l'Académie für Alte Musik de Berlin, sous la direction de René Jacobs. Magnifique air.
Ouais, c'est incroyable, oui. Ouais. Ouais.
Alors, parlez-moi un peu de Claudia Pinza, parce qu'on l'a évoqué à propos de René Jacobs, ce travail avec elle.
Alors, oui, ça fait 20 ans que j'ai étudié avec elle, et... Oui, il a parlé de la voix construite et c'est très intéressant ça. C'est vrai que, ben, on travaille la technique comme bel canto et comme elle a appris de son père et sa mère aussi qui était pianiste et aussi coach de la voix. Et oui, c'est ça qui m'a peut-être étonnée que on pouvait chanter le baroque avec la technique bel canto parce que j'avais aucune envie de chanter baroque au début parce que je connaissais que l'école anglaise de baroque qui est plus claire avec la voix sans vibrato et ça m'a pas beaucoup plu. Et quand j'ai commencé avec René, c'est vrai que il m'a ouvert une porte parce que j'ai vu que on pouvait utiliser plein des couleurs et aussi plus des couleurs que dans le bel canto même. Pour moi, c'est le baroque, c'est le vrai bel canto parce que la voix est tellement exposée et avec l'orchestre qui font des petites exclamations, l'orchestre qui dit « Oh, c'est dommage que c'est passé comme ça » ou oh, « Est-ce que c'est vrai ?» Et c'est génial de chanter, de se trouver dans cette conversation avec l'orchestre sur scène. Oui, Claudia, je suis rentrée maintenant de Pittsburgh. Elle habite à Pittsburgh pendant l'année et puis d'été, elle vient en Italie. Et avec elle, j'ai trouvé un rapport d'apprenti. Parce que normalement, comme toutes les choses dans la vie, on a très peu de temps et on va pour une leçon de une heure, une fois par mois, quelque chose comme ça. Et quand je vais étudier avec elle, je reste chez elle. Elle est vraiment devenue comme ma deuxième mère. On étude pendant deux heures et demie chaque jour. Et une heure de vocalise chaque jour, c'est très bien pour la voix, pour sentir, pour unifier la voix grave, la voix aiguë, comme a dit René. Et il y a une autre chose que René a dit que les récitatifs, comme je fais les récitatifs, c'est quelque chose, je suis née avec ça, mais c'est pas vrai ça. C'est la Claudia qui adore toujours les récitatifs. Alors on travaille pendant des heures les récitatifs. Elle m'a dit que quand elle a appris Mimi de Bohème, son coach l'a fait travailler pendant un mois sur une phrase. Et c'est vrai qu'on peut trouver des couleurs, des intentions, des émotions avec les mots. Et c'est dans les récitatifs qu'il a l'action, le mouvement de drame. Et c'est très important et j'adore maintenant les récitatifs, utiliser les mots. Et quand j'entends les airs qu'on a enregistrés avec René de Farinelli, j'ai presque envie de les réenregistrer avec les nouvelles choses que j'ai apprises pendant des années pour utiliser mieux les mots.
Bah, il sera prêt à le faire, et moi j'en suis sûr.
Et c'est toujours ce qu'il voulait, il m'a toujours poussé ça, de prononcer, d'utiliser les consonnes. Et non, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec les mots, avec la voix.
Alors, autre compositeur auquel vous êtes venu et auquel vous êtes désormais très fidèle, Vivica Zeno, c'est Vivaldi.
Thank you.
Aditata da Due Venti, un tube décoiffant, un extrait de la Griselda de Vivaldi, la Vivica Geno. Vous étiez avec un autre ensemble qui vous est cher, c'est l'Europa Galante, Fabio Biondi. Alors j'ai trouvé René Jacobs à Vienne, Fabio Biondi, je l'ai trouvé en train de se reposer à Parme d'ailleurs. De temps en temps, il est chez lui, et oui, c'est vrai. Et je vais demander parler de vous, évidemment, et de votre rencontre. Et en fait, c'est né de, non pas de Vivaldi, mais de Haas, justement.
Oui, effectivement, tout est arrivé grâce à un enregistrement avec René de Farinelli. En effet, c'est là que j'ai connu discographiquement Vivica, et je trouvais évidemment sa voix bouleversante et très douée pour couvrir le difficile répertoire vivaldien d'un compositeur que bon a beaucoup donné pour le théâtre, mais que souvent a écrit pour la voix comme pour le violon. Donc c'est du difficile répertoire à couvrir, et grâce au disque Farinelli, j'ai découvert cette dot extraordinaire de Vivica. Donc on a pris contact, et bizarrement notre première rencontre était pas du tout Vivaldi, c'était Alessandro Scarlatti, qui c'est un compositeur de grande passion pour moi. Elle a chanté plutôt une partie assez méditative et assez expressive, c'était l'oratorio de la Santissima Trinità.
Oui, elle faisait la théologie là, oui.
Oui. On a familiarisé énormément, on a vraiment très très bien travaillé, et puis à partir de là, c'était une grande amitié, et on a continué à l'attaque du répertoire virtuose.
Alors, ce qu'elle aime beaucoup aussi dans le travail avec vous, c'est que vous êtes violoniste, mais que ce violon, justement, c'est presque du chant.
Bah, disons que c'est partagé, hein, parce que grâce au traité d'époque, on sait la relation très forte entre le violon et la voix, et en général, entre les instruments et la voix. Et ces deux écoles assez importantes qui s'influencent et qui donnent beaucoup l'un à l'autre. Et j'ai appris énormément par la voix, et c'est vrai que le moyen de démontrer, de demander certaines phrases ou certains moments d'application d'expression devient très facile avec le violon, et Vivica a toujours immédiatement compris grâce à des exemples. Et voilà, donc on a vu quand même tout de suite un langage commun. Et je dirais surtout, et c'est ça qui est bouleversant chez Vivica, et je ne parle pas de l'intelligence qui est toujours hyper présente, et c'est vraiment une artiste d'une énorme professionnalité et hyper préparée. Je pense que c'est la chanteuse qui a plus soif de répéter. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est vrai que dans une époque où on est, de temps en temps, on est stressé par la course, et on tente toujours de résister à ça. Avec Vivica, c'est un bonheur, parce qu'elle est toujours partageante pour travailler le plus possible, hyper disponible pour venir à les répètes. C'est pas courant, je dois dire, chez les chanteurs, de temps en temps, on trouve des difficultés logistiques même, et pour réunir un cast, une distribution en même temps. Vivica est toujours partageant pour être là depuis le début de répète. C'est vraiment quelqu'un qui, à côté de sa professionnalité, et encore aujourd'hui, chose qui est très importante, démontre une vraie passion pour ce répertoire. Chose qui est importante, je dis toujours, c'est un acte d'amour qu'on fait, et l'amour est extrêmement important pour suivre cette musique.
Pensier così funesto toglie la pace. Thank you.
Un extrait de l'oratorio per la Santissima Trinita d'Alessandro Scarlatti. Vous y chantiez la théologie, Vivica Geno, l'ensemble Europa Galante sous la direction de Fabio Biondi. Fabio Biondi qui, comme René Jacobs, ont souligné bien sûr votre immense talent, mais votre soif de répéter, comme le disait Fabio, et votre bonne humeur, c'est si rare parmi les chanteurs ?
Non, je ne savais pas ça, mais bon, j'ai appris aujourd'hui, peut-être. Non. Je dois dire que... Ça, j'ai trouvé en lui et dans son orchestre aussi, parce que quand on a enregistré Pyrotechnique, c'était au mois de décembre à Parme, il faisait froid. Et le jour avant de commencer l'enregistrement, Fabio m'appelait pour me dire il faut annuler tout parce qu'il n'y a pas de réchauffage dans l'église où on va faire enregistrer.
Oui, mais quand on est né en Alaska...
Ouais, non, mais j'ai dit... Bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Alors, le lendemain, je suis arrivée. Il avait acheté des chauffages, des chauffeurs comme des grands champignons, c'est comme les grands ristos. Mais ça a fait un peu, c'était horrible dedans. Alors, on a dû ouvrir toutes les fenêtres et on est resté comme d'avant. Il faisait froid, froid, froid. Alors, à la fin, après quelques heures, il m'est venu dire... Alors, l'orchestre a dit que... Ils vont essayer de jouer parce qu'ils sont tous allés à un marchand à acheter des gants. Ils ont coupé les doigts des gants pour pouvoir jouer. Si tu es d'accord, on peut essayer de faire 2 heures aujourd'hui. Et moi, j'ai dit, mais oui, on essaye. Alors moi, j'étais là avec mon manteau, là que je me couvais, j'ai tenu couvert le nez pour respirer. Puis j'ai ouvert le visage pour chanter, mais c'était incroyable de trouver sa volonté de l'orchestre, du musicien, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas tous les jours. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et chaque fois que je fais des concerts ou n'importe quoi avec Europa Galante, moi, j'adore, dans l'air, me retourner à regarder l'orchestre pour partager ce qu'ils jouent. Et je trouve toujours des souris, et des visages souriants. C'est magnifique. Et puis, c'était drôle parce que quand on avait enregistré Agitata da Due Venti, l'orchestre a changé le titre. Ils ont dit Agitata da 220, que c'est l'électricité. Alors, parce que c'était tellement vite. Non, ils sont tous des grands amis et Fabio, il est toujours positif, il est toujours très calme aussi. Que pour moi, je suis un peu plus nerveuse.
Vous êtes anxieuse, oui,
non. Oui, un peu parce que j'ai envie de bien faire tout. Alors, je suis assez exigeant avec moi-même. Et alors, il est toujours très calme. Il me dit, non, repose-toi, c'est OK. On a fait une tournée ensemble aux États-Unis au début de 2012. Et ils ont joué 10 concerts dans 11 jours, dans 10 villes différentes. Moi, j'ai fait 6 de ces concerts-là, qui étaient déjà beaucoup. Mais ils ont une énergie, et j'ai entendu dire aussi cette année, quand ils avaient le hurricane aux États-Unis, ils étaient à New York, ils devaient le lendemain faire un concert à Chicago, mais les aéroports étaient fermés. Ils ont pris la voiture, ils sont allés en voiture de New York à Chicago, c'est énorme ça. Ils ont joué le concert ce soir.
C'est ça aussi l'Italie. Hein.
Alors... Écouter dire de Fabio que moi, je suis très... j'ai envie de travailler, ça veut dire quelque chose.
Et la bonne humeur. Mille merci, on en est presque aux oranges à la Massimo, c'est-à-dire à la fin de notre déjeuner, Vivica Geno. Alors, je rappelle votre actualité, en tout cas française. Hein. 1er février, donc, à Salgavo, ce concert autour de Faustina Bordoni, avec la Capella Gabetta, et le disque existe. Oui. En avril, ce sera au château de Versailles, à Ifarnace de Vivaldi. Ce sera le 4 avril. Vous y retournerez, d'ailleurs, au château de Versailles, le 31 mai, le 2 juin prochain. Ça, c'est pour Haendel Alessandro. Et puis, le 16 mai, ce sera au Théâtre des Champs-Élysées. Agrippine de Händel, vous chanterez le rôle de Néron. Néron. Et si on veut vous entendre dans Carmen, alors ceux qui ont raté la production de Rouen, il faut aller à Fairbanks. Donc en Alaska, c'est en juillet, il y fera bon
oui,
et chaud.
Oui.
Et Massimo m'a dit qu'on pouvait pêcher le saumon et le manger.
Il fait beau, ouais, c'est incroyable.
Et on ne peut pas rencontrer un ours si on va se promener, si.
On peut, oui. C'est un peu dangereux, mais bon.
Je ne suis pas sûr. Mille merci encore.
Merci.
Mika Genou, et on se quitte en écoutant un extrait de la Cenerentola Rossini. Avec ses vocalises de la Cenerentola, votre Cenerentola, de Rossini, Vivica Genot, avec l'ensemble orchestral de Paris, sous la direction de John Nelson, que se referme cette émission, préparée par Xavier Carrère, réalisée par Jean-Charles Liéval, avec aujourd'hui Jean-Richard Dufour. La semaine prochaine, la plus francophile des divas anglaises, Félicity Lott, et tout de suite, les grandes dames du piano de Rodolphe Bruno Boulmier, Imogen Cooper.
Nice beaver.
Thank you.